France Culture.
Transition énergétique, éteindre un feu hors de contrôle. Une série documentaire de Tao Favre, réalisée par Gaël Gillon. Épisode 4, un jardin dans les cendres.
Là, on est au pied du château, sur le rocher qui lui sert de fondation. C'est un château de pierre. Et on va monter tout en haut du château, parce que c'est de là-haut qu'on a la vue la plus impressionnante.
Nicolas Mirouz, on est à Bizanet, en plein pays Qatar. Tout autour de nous, c'est un paysage typiquement méditerranéen. On voit la mer pas très loin. Principalement des champs de vignes, des grandes lignes droites, beaucoup d'angles droits. Ça et là, quelques chênes verts, un peu d'olivier, un peu de figuier. C'est un paysage largement érodé qui a été sculpté par le feu pendant des milliers d'années. Mais aujourd'hui, c'est l'agriculture qui définit principalement ce paysage. Et un certain type d'agriculture, une agro-industrie. Comment le viticulteur que tu es, qui est installé ici sur une vingtaine d'hectares en biologique, perçoit ce paysage? On imagine que ça brûle assez régulièrement ici.
Ah oui, ça brûle assez régulièrement, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Sur la commune, on a des feux tous les ans, donc c'est régulier, c'est tous les étés. Ce qu'on voit du sommet de ce château, c'est assez saisissant parce qu'on a en fait un panorama à 360 degrés. Donc là, ce qu'on voit, le côté Beauregard, c'est un côté qui est assez sauvage. C'est le massif de Fontfroide. Et ça, c'est un grand massif méditerranéen, justement sur lequel il y a un enjeu avec le feu, puisqu'il est très surveillé. Alors très protégé, je ne sais pas, mais très surveillé.
C'est un territoire qui est aux avant-postes du changement climatique. Il y a un vrai problème de sécheresse ici. Comment ça a évolué de ce point de vue-là ces dernières années ?
C'est assez effrayant. Ça fait 25 ans qu'on est installé, donc la grande donnée sur ces 25 années, c'est le démarrage de la date de récolte. Ça peut paraître insensé, mais en gros, on est passé d'un début de récolte qui était au début des années 2000, fixé à mi-septembre, et on est maintenant à mi-août. Voilà. La seule explication rationnelle qu'on puisse trouver à ça, c'est évidemment que le temps se réchauffe. Sur une échelle de temps plus courte, c'est-à-dire qui concerne les 4 dernières années, eh bien nous, on subit ici un régime de pluviométrie dramatique. Et donc c'est la 4e année consécutive dans laquelle on s'engage avec un déficit pluviométrique. Ça veut dire que la sécheresse est là. L'an dernier, on a perdu la moitié de notre récolte. Et l'année d'avant, on a perdu 30% de notre récolte. Ça questionne la faisabilité de la production ici.
Quel est le contexte aujourd'hui dans lequel l'agriculture doit être pensée? C'est un contexte qui est complètement nouveau en termes climatiques, en termes chimiques, en termes géopolitiques. Ça change tout quand on fait l'agriculture, parce que l'agriculture, ça suppose quand même une certaine stabilité.
Oui, alors nous sommes très clairement dans un système qui évolue tellement vite que c'est pratiquement impossible de faire une prédiction.
Mathieu Calam, agroécologue.
Alors c'est d'ailleurs ce qui est très difficile, parce qu'effectivement, il faut une très grande stabilité pour faire de l'agriculture. C'est presque un investissement à long terme, surtout quand elle est durable. Typiquement, quand vous plantez un olivier, il va devenir productif. Alors autrefois, maintenant, ils ont réussi à réduire les cycles. Mais autrefois, un olivier devenait productif en 20 ans. Et d'ailleurs, l'acte de guerre par excellence pour les Grecs, c'était de couper les oliviers, parce que vous détruisiez un capital qui mettait 20 ans à se refaire. Et ça, c'est une grande difficulté, parce que comment se projeter dans un monde durable quand on est dans un monde instable ? Où effectivement, il y a une sorte d'avantage à l'adaptation permanente aux événements. Ce qu'on voit, par contre, de manière très nette, c'est que dans cette grande défiance qui est en train de monter dans le monde, les gens sont en train de repenser tout simplement à leur sécurité alimentaire. Et là, il y a deux manières d'y penser. Il y a une manière, j'ai envie de dire, erronée, et il y a une manière qui me paraît juste. Il y a une manière erronée qui est juste de regarder la quantité d'alimentation qu'on produit. Pourquoi c'est erroné ? Parce que si vous produisez beaucoup d'alimentation, mais en ayant pour ça importé beaucoup de pétrole et beaucoup d'azote, vous repoussez la dépendance en fait en amont. Mais vous restez dépendant de ceux qui vous fournissent du gaz, de l'azote, etc. Et puis il y a une manière qui fait sens, qui est de se dire, qu'est-ce que la souveraineté au fond, dans son meilleur de sens du terme, qui serait tout simplement de disposer, de pouvoir disposer de soi-même en tant que peuple, c'est d'arriver à produire avec nos propres forces et avec les ressources de notre territoire. Et là, on retrouve tous les raisonnements de l'agroécologie, dont le but est d'arrêter de substituer au processus naturel, notamment la photosynthèse, mais aussi l'activité des sols, d'arrêter de lui substituer des produits issus de l'industrie, et au contraire, d'arriver à faire une sorte de pacte avec le vivant. Alors, on va retrouver une idée de paix, puisqu'on peut dire que l'agriculture industrielle, d'une certaine manière, c'est une guerre contre le vivant. Il faut qu'on fasse une paix avec le vivant. Et dans ce cas-là, c'est développer une idée de convivialité. Et finalement, c'est ça l'écologie, c'est qu'on va devoir vivre ensemble sur une planète limitée avec les autres êtres humains, avec les autres organismes, une sorte de convivialisme économique, si je puis dire, dans lequel on va essayer de comprendre comment fonctionnent nos écosystèmes, pourquoi ils ont été performants, pourquoi c'est eux qui se sont installés dans nos zones géographiques, et comment finalement, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme, on peut faire des exploitations agricoles qui imitent les écosystèmes et qui atteignent le même niveau de performance que la performance, en l'occurrence, étant la capacité, effectivement, de transformer le feu en matière et donc d'augmenter la photosynthèse et la biomasse.
Nicolas Mirouze, vigneron, membre de l'atelier paysan.
La voie qui a été prise, c'est celle de l'intensification de la production. L'intensification de la production, elle suppose que les paysans s'attachent à une dépendance, c'est celle des produits, mais aussi des machines qui permettent d'épandre ces produits, et donc une dépendance forte à l'agro-industrie. Et finalement, le constat qu'on fait, c'est que la viticulture, c'est le système le plus abouti de l'agriculture industrielle intensive. Nous, ici, on a un bassin de production qui s'étend de la vallée du Rhône jusqu'à la frontière espagnole, qui est ultra spécialisé dans cette production, qui a quasiment effacé tout autre type de production et perspective, en tout cas, d'agriculture vivrière, qui serait l'agriculture qui permettrait de nourrir son territoire. Et cette transformation, eh bien, elle ne se fera que si vraiment on arrache la terre et la production agricole à la logique industrielle. Voilà, ça suppose d'aller sur une production qui est vivrière. Ce n'est pas du tout le cas avec la vigne. Et c'est pas le cas non plus quand, avec des champs de céréales ou des productions de maïs, on se destine à de la production d'export dont la seule perspective est de faire entrer des devises et de peser sur la balance commerciale extérieure. Voilà, ça doit être pensé différemment. Il faut que tous nos champs, tous nos vergers, tous nos jardins servent à nourrir et pas dans une perspective de marché. Et c'est exactement l'inverse qui a été fait. Les agriculteurs, en fait, ont été mis en concurrence face à la loi du marché. Et cette mise en concurrence a eu pour effet, eh bien, de faire disparaître les paysans. Nous, on parle de l'ethnocide des paysans. Il y avait 5 millions d'agriculteurs en France à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on est un peu moins de 400 000. Et dans 10 ans, on sait qu'on sera moins de 200 000. Les paysans sont en train de disparaître, c'est ça la réalité. Ils disparaissent parce qu'ils sont mis en concurrence. La robotique et le numérique, c'est ça la nouvelle voie de l'intensification de la production. Et c'est celle qui exclut le travail vivant, le travail humain, qu'il faudrait au contraire développer et diffuser dans l'idéal de ce qu'on appelle, nous, l'agriculture paysanne et même la société paysanne. C'est rendre nos espaces ruraux désirables à travers une nouvelle façon de considérer le travail de la terre. Développer, c'est ce qu'on imagine faire dans le tiers-lieu qu'on met en place ici, c'est le tiers-lieu paysan Beauregard. C'est développer la mutualisation et l'entraide dans une perspective de diversifier la production agricole. Et c'est vraiment par l'engagement collectif qu'on y arrivera. Un agriculteur seul, isolé, individualisé, contraint par ses endettements et par un marché qui l'accable complètement, ne transformera rien. En fait, il transformera sa ferme et ça ira pas au-delà. Elle sera peut-être transmissible à une génération de plus, peut-être pas. Et si c'est pas le cas, elle sera reprise par le système industriel. Voilà ce qu'on observe.
Quelque chose qui est toujours bon de rappeler, c'est que l'agriculture industrielle est extrêmement peu efficace énergétiquement.
Et c'est très gentil pour l'agriculture industrielle de dire qu'elle est peu efficace énergétiquement. En fait, c'est même un exemple de contre-productivité, puisqu'il y a des tas de cas où on va consommer plus d'énergie que ce qu'on en produit. Fondamentalement, on n'a jamais vu un écosystème qui brûlait plus de biomasse qu'il n'en produisait. Et l'agriculture industrielle, globalement, brûle plus de biomasse qu'elle n'en produit. J'appelle biomasse le fait que, et je crois qu'il faut beaucoup insister là-dessus, le fait que le pétrole, le gaz et le charbon, c'est de la biomasse fossile. Et là, le terme d'énergie fossile est un peu trompeur, parce que finalement, d'où vient cette énergie sous terre ? Ben, en fait, c'est de la biomasse fossile, c'est de l'activité photosynthétique qui a des millions d'années. Et donc, il est vraiment impératif, maintenant, qu'on arrive à regarder ce bilan, qui est finalement le seul bilan qui compte pour le vivant, dont nous faisons partie, qui est d'avoir un bilan positif. Et de ce point de vue-là, si on imaginait que une monnaie biomasse, par exemple, ou que la biomasse soit la monnaie, l'agriculture industrielle est une sorte d'endroit où on détruit de la richesse. Et ça, c'est quand même totalement contre-productif. Et ça ne va pas durer très longtemps d'ailleurs, parce qu'à la vitesse à laquelle on désertifie le monde, je pense qu'on en a pour un siècle au maximum.
Dans l'Aude, 3 incendies ont éclaté après notre enregistrement en mai. Les 2 premiers ont parcouru quelques centaines d'hectares chacun. Le 3e était d'une autre dimension, 17 000 hectares réduits en cendres. Autour de chez Nicolas Mirouze, le paysage n'a plus rien à voir avec ce que l'on a décrit. Les hangars agricoles et leurs panneaux solaires ont fondu, le noir et le gris ont remplacé le vert, un paysage comme un avant-goût du désert. Outre le bouleversement climatique, c'est l'assèchement des milieux qui a rendu possible la survenue de tels feux, et de manière plus générale, la perte de leur fonctionnalité écologique, pour laquelle l'agriculture industrielle a une responsabilité colossale. Plus de la moitié du territoire métropolitain étant destiné à l'agriculture, c'est une surface immense qui est gérée dans une logique extractiviste et minière, conduisant à une simplification extrême de notre environnement. Contre la sécheresse, certains réclament encore des méga-bassines, c'est l'assurance de prochains méga-feux. Et c'est une part toujours plus grande de ces surfaces que la transition destine aujourd'hui, et suivant la même logique, à la production de bioénergie. Selon la stratégie française, plus de 40% de l'énergie utilisée devra provenir de la biomasse au milieu du siècle. C'est la terre elle-même qui est en train d'être convertie en énergie. L'horizon calciné promis par la société industrielle bas carbone occulte celui vert et chatoyant d'une société écologique. Au milieu des cendres, il s'agit désormais d'affirmer ce lieu où l'énergie ne se dégrade pas, mais se conserve et s'enchasse dans des structures vivantes et complexes, le jardin, dont les fruits les plus suaves sont la liberté et l'émancipation. Au cœur de Dijon, sur 8 hectares, le quartier des Lentillères, des terres agricoles sauvées d'un projet de bétonisation, où vivent aujourd'hui dans des constructions légères environ 80 personnes. Morgane.
Là, on arrive sur cet endroit où il y a une espèce de petite prairie avec plein d'arbres fruitiers. Là, c'est le moment où les sureaux ils sont en train de fleurir. Alors, il y a plein de sureaux partout. Et puis, au milieu de tout ça, il y a un grand jardin sur environ 1,5 hectare qui est bordé par une petite cabane rafistolée. Et cette petite cabane, ça a longtemps été notre QG d'organisation, parce que dans un grand lieu comme les Lentillères, pour s'organiser, notre manière la plus commune, c'est de faire des réunions et des assemblées. Et donc, c'est beaucoup dans cette petite cabane rafistolée, d'abord, qu'on a commencé nos premières assemblées mensuelles. Et on continue encore par moments à l'utiliser, mais il évolue au gré des usages. Et aujourd'hui, c'est devenu une zone de gratuité. Où il y a des vêtements en dépôt libres pour tout le monde. Et puis surtout, il y a ce potager collectif qui est le premier jardin des Lentillères, qui est né d'une manifestation fourche en main en avril 2010 avec tout un tas de membres du réseau associatif et alternatif local, écolo, les faucheurs, des personnes qui voulaient rejoindre des AMAP à une époque où ça commençait à peine de se développer et il n'y avait pas encore beaucoup d'offres, des personnes plutôt issues des squats, de la mouvance libertaire dijonnaise qui sont réunies, et c'est pas une chose fréquente quoi, mais ça fait partie de la beauté de cet endroit où il y a une forme de diversité politique et citoyenne de personnes qui sont mobilisées pour défricher et faire ce jardin collectif en 2010, à une époque où on savait pas trop si ça allait durer, continuer ou pas continuer quoi. Et voilà, aujourd'hui 15 ans plus tard, il est toujours là et il est toujours cultivé, et notamment par ma camarade Andrea.
Donc il y a environ 3 000-4 000 mètres carrés de jardin dans ce potager collectif. Les productions qu'on fait sont à partager entre nous, jardiniers, jardinières qui venons régulièrement. Et des fois, on peut dépanner pour des repas de soutien ou des choses comme ça. Et on cultive énormément de choses. Et après, pour nous, la manière dont on cultive, c'est assez pensé. On a bien sûr un plan de culture, etc. Et donc, c'est aussi, on essaye de réfléchir. On met aussi des fleurs. On fait pas que de la production, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est qu'on a envie que ce soit beau. On a envie qu'il y ait des endroits de friche. On a envie de garder de la friche. C'est un peu quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Ne pas que ce soit un jardin français, alors ça c'est sûr, à l'anglaise non plus. Mais on tient à ce qu'il y ait vraiment des endroits de friche et pas que tout soit défriché pour que ce soit cultivé. Ça pourrait être aussi une autre option en fait, hein, de se dire nous on veut de la production parce qu'on veut que chacun, chacune puisse repartir avec un panier de légumes conséquent. Ce que déjà c'est le cas pour notre collectif, mais voilà, c'est une autre manière d'envisager le jardin quoi.
Il y avait vraiment d'abord l'idée d'occuper sans forcément se douter que ce serait possible d'y instituer sur un terrain illégal. Squatter, c'était vraiment pas dans les pratiques de l'époque en fait. C'est autour de 2010 que l'idée des ZAD a commencé à émerger. C'était pas quelque chose qui était courant, et donc on est venu ici en se disant ces terrains sont abandonnés, ils sont menacés de bétonisation, c'est dommage de les laisser comme ça alors que plein de gens veulent des jardins, plein de gens veulent des légumes bio. Mais en fait on se disait, mais est-ce qu'on peut vraiment faire un jardin sur un terrain qui ne nous appartient pas? Faire un jardin, ça veut dire se projeter, ne serait-ce qu'à l'échelle d'une saison. Est-ce que tu peux te projeter à l'échelle d'une saison en ne vivant pas sur place, en n'étant pas propriétaire toi-même du lieu? Et au final, on a fait ce pari. Et aujourd'hui, ce qui reste de ça, c'est ce quartier libre 15 ans plus tard. Mais c'était vraiment pas quelque chose qu'on aurait pu imaginer. Et je pense qu'il y a une question d'attachement aussi qui s'est créée et qui a permis aussi peu à peu de faire que ça marche, j'imagine.
Ça participe aussi à un moment de Reclaim the Field. À ce moment-là, le mouvement était assez développé. C'est un mouvement international qui, justement, essaye de se réapproprier des terres pour les cultiver. Et il y avait un peu cette idée-là, quand même, déjà, à ce moment-là, qui était assez marquée et développée, et dans une idée de subsistance. Et après, petit à petit, ça s'est vraiment développé un peu partout sur le quartier, avec le jardin des maraîchères qu'on va aller voir, où il y a cette idée de pouvoir proposer des légumes à prix libre, avec un accès vraiment à tous. En fait, il n'y a pas une idée de toi, tu gagnes moins, donc c'est tes priorités, ou je sais pas quoi. C'est que tout le monde vient et qui veut peut participer à installer le marché, peut donner un coup de main aux maraîchères, etc. Il y a une grande place de cette activité qui est développée au quartier, quoi.
Nicolas Mirouz.
Pour être opéré, la transformation doit être de nature systémique. Ça veut dire qu'il faut l'envisager de façon globale. La seule façon que cette transformation advienne, ce serait d'engager la population, en fait, dans les choix qui sont réalisés. Ce serait d'avoir un choix démocratique pour le modèle de production de nos aliments. Voilà. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'agriculture doit être toujours associé à ce pourquoi elle a été mise en place, c'est l'alimentation des habitantes et des habitants. À l'Atelier Paysan, on soutient une proposition politique enthousiasmante qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Et pourquoi elle nous enthousiasme ? Eh bien, c'est parce qu'on y voit la perspective de changer le modèle de production agricole, de passer de ce qui est généralisé aujourd'hui, l'agriculture industrielle intensive, à une agriculture paysanne, et pourquoi pas à une société paysanne. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est une proposition qui vise à ce que les mangeuses et les mangeurs, bref, les habitants, soient engagés dans les choix. Et de quelle façon ils pourraient être engagés ? Eh bien, c'est par un système de sécurité sociale exactement tel qu'il a été mis en place pour le régime général à la sortie de la guerre par les ordonnances de 1947, à savoir localement structurer des caisses de l'alimentation dans lesquelles siègent des habitantes et des habitants qui choisiraient les systèmes qui seraient conventionnés. Donc ça voudrait dire en fait que par une cotisation sur le travail, exactement comme c'est fait pour le régime général, 150 euros par mois puissent être alloués à tous les habitantes et habitants du territoire, majeurs et mineurs. Les citoyens qui seraient engagés dans les choix permettraient de définir des circuits de conventionnement, c'est-à-dire décideraient quelle production, quel producteur, quel transformateur, quel distributeur serait conventionné sur le territoire où agit la caisse. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est une proposition de démocratie participative. Et le changement politique, en fait, les grandes conséquences qu'on va avoir des transformations qu'on sent frémir, on n'est peut-être pas si loin d'un avènement possible de cette proposition.
Attends. J'arrive. C'est important de manger. Là, il y en a plein. Hop. Tiens. Si vous en voulez, allez-y. Petite fraise, là. Hop. Donc ça, c'est ces fraises qui sont arrivées toutes seules, pour le coup. Ça, c'est trop beau, là. Il y a plein de
roses, d'églantines, ouais. De la bourrache, des choses qui ressemblent un peu à des fleurs de poireaux.
On ne connaît pas tous les usagers, usagères et des petits jardins parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Il y a au moins 130 parcelles de petits jardins. Donc, à minima, autant de jardiniers et jardinières, voire plus. Donc, on ne connaît pas tout le monde. Et puis, ils habitent un peu partout dans Dijon. Il y a aussi, des fois, des habitations au milieu... Il y a différents endroits où on passe, au milieu des petits bois, etc. Donc ça peut être des caravanes, ça peut être des camions aménagés, ça peut être des cabanes et des habitats légers construits, autoconstruits avec des matériaux de récupération. Du coup là on est au jardin des maraîchères qui sont en train de travailler justement, comme tous les jeudis et tous les lundis notamment.
Et là, c'est une parcelle qui est quand même plus dégagée que les parcelles qu'on a vues auparavant, qui fait de l'ordre de 1 hectare, avec des planches qui font une vingtaine de mètres de long. Donc c'est organisé en longues planches comme ça, et il y a deux serres à l'extrémité, et de l'autre côté des deux serres, il y a l'ancienne grange qui... Enfin, c'est la grange qu'on a longtemps utilisée pour organiser des concerts dedans, qu'on appelle la Grange Rose. Et c'est aussi là où on fait les fameux marchés hebdomadaires à prix libre. Et là, c'est une petite équipe d'un collectif qui se renouvelle chaque année, qui est constitué de 5 à 10 personnes, qui cultivent plutôt dans l'idée de produire des légumes pour le marché à prix libre, mais aussi pour les habitants et habitantes des Lantillères, et aussi ponctuellement dans des événements militants ou de soutien ou dans le cadre de lutte. Voilà, c'est distribué ou ça va servir pour la cuisine et les repas.
À l'atelier paysan, on pense que pour être réellement force de transformation, eh bien, on doit avoir 3 leviers. Les alternatives en sont un. Elles montrent ce qu'il est possible de faire. Le second levier, c'est l'éducation populaire. C'est ce qu'on fait à l'atelier paysan à travers toutes les actions de conception, d'outils ascendantes, de formation entre pairs, entre agriculteurs, et puis de formation aussi pour acquérir le savoir-faire disparu des fermes, celui de la transformation du métal. Mais le troisième levier, c'est celui du rapport de force. Il faut être très clair que le modèle qu'on subit, qui a été mis en place donc pour la partie viticole dès la fin du 19e siècle et qui a été généralisée à toute la production agricole après la Seconde Guerre mondiale, eh bien ce système se fait au bénéfice exclusif des firmes industrielles. La valeur de la production des agriculteurs est captée par les industries de l'amont, les producteurs d'engrais, les producteurs de pesticides, de désherbants, les semences, le machinisme agricole, et par les filières de l'aval, qui sont les transformateurs, les agro-industriels, et les distributeurs, les grandes surfaces qui concentrent la plus grande partie de ce qui est mangé sur le territoire. Eh bien, rien ne sera cédé dans ce modèle-là par ces firmes agricoles, par ces firmes industrielles. Rien ne sera cédé, ça veut dire qu'il est nécessaire d'engager un rapport de force. Le complexe agro-industriel réunit ses acteurs, les industriels, mais il réunit aussi l'État, parce que ce qui explique la diffusion du modèle agricole, ce sont les politiques publiques agricoles, et que donc tant que ces politiques publiques sont en place et diffusent le modèle qu'elles diffusent, rien ne changera. Mais il y a aussi un troisième acteur. Le troisième acteur, c'est le syndicat unique, c'est la FNSEA. Alors on dit unique parce qu'il est à ce point dominant et le système a été à ce point pensé pour qu'il n'y ait pas de concurrence que de fait, c'est un système unique. Donc ce syndicat unique est dirigé, moi j'ai rien contre les agriculteurs qui sont affiliés à la FNSEA, ils sont souvent affiliés à la FNSEA sans même le savoir. Tous les adhérents de CAF coopératives dans notre région sont affiliés de fait à la FNSEA. La critique est portée sur les cadres de ce mouvement, qui par exemple est parfaitement incarné par Arnaud Rousseau, qui est le président de la FNSEA, qui est aussi complètement intriqué dans le groupe Avril et différents acteurs de la filière industrielle. Voilà contre qui il nous faut nous battre. Ce rapport de force doit être pensé avec tous les moyens de lutte qui concernent le foncier, mais qui concernent aussi le travail, et donc engager les syndicats de travailleurs de l'agro-industrie notamment, dans cette impensée politique qui est le modèle agricole actuel de production de nos aliments.
Comment penser l'articulation entre l'avènement d'une néo-paysannerie et l'appropriation des terres par le marché? Quelles sont les stratégies d'émancipation des paysans par rapport au marché et au capitalisme industriel?
D'abord, la meilleure situation pour être libre, c'est d'abord d'avoir envie de l'être. Et le problème est de savoir si nous avons envie de l'être. Et c'est là que la question de quelle liberté se pose. Finalement, il y a beaucoup de gens qui s'accommodent d'une grande liberté de consommation et d'une absence de liberté politique.
Mathieu Calam.
Ceci dit, si nos sociétés font le choix d'une certaine liberté politique, qui est une autre manière d'utiliser le mot souveraineté, souveraineté de l'individu, souveraineté du collectif, il va bien falloir arriver à désigner nos dépendances et la manière dont on peut construire des alternatives. Alors, comme nos dépendances sont à la filière et aux acteurs de la filière, la réponse des alternatives, c'est de construire d'autres types de dépendances, mais au niveau des territoires, c'est-à-dire être dans un territoire, habiter le monde, comme on dirait, ou en tout cas habiter un endroit qui est pour nous un monde. Et pour ça, effectivement, reproduire de l'alimentation localement, ça va demander d'agencer du travail, bien sûr, toujours, un certain degré quand même d'outillage. On voit mal comment on peut se passer totalement d'outils. Enfin, ça nous ramènerait à du pré-néolithique, ou même du pré-paléolithique, en l'occurrence. Ça nous demande de penser le foncier, mais aussi l'eau, aussi les semences, et des choses comme ça. Donc, la réflexion, c'est finalement cette sorte de tension qu'il va y avoir entre la filière et le territoire. En gros, le monde industriel, c'est des filières qui inféodent, qui subordonnent des territoires, et toute la révolution qu'on a en nous, c'est est-ce que les territoires arrivent à subordonner les filières. Ensuite, à l'intérieur des territoires, on peut se dire que finalement, cette idée du faire en commun, elle va se décliner à toutes les échelles, et donc il y a beaucoup de réflexions en cours. Je vois typiquement au sein de Terre de Liens, où on s'aperçoit que le mythe de la petite ferme avec un couple, qui était le modèle d'installation d'agriculture, fonctionne pas si bien que ça, parce qu'on a besoin de réseaux sociaux, et ce qui est en train d'émerger, c'est l'installation au collectif. Et pas forcément en étant en propriétaire collectivement des terres. C'est-à-dire que les terres peuvent très bien être propriété d'une commune. Donc on voit à chaque fois l'idée du commun qui se développe, que ce soit pour la propriété de la terre, pour la gestion de l'eau, mais aussi pour la mise en valeur, parce qu'on est des animaux sociaux et on a besoin de se voir et on déprime si on est tout seul. Et c'est ça un petit peu qui est peut-être en train de se produire. En tout cas, si quelque chose doit empêcher la fin de l'humanité par la société industrielle et émerger, ce sera incontestablement des dynamiques socio-territoriales. Mais où on touche quelque chose qui est essentiel pour moi, c'est que l'agir en commun a besoin de quelque chose. Ou exactement, il ne naît pas si facilement que ça tout seul. Et la force des grands systèmes hiérarchisés, de ces grands complexes, c'est qu'ils produisent de l'agir en commun par la hiérarchie, par l'autorité. Et se passer d'autorité, c'est-à-dire remplacer le roi par la loi, ça demande des gens très très bien structurés mentalement. Parce que je crois que chacun d'entre nous a fait l'expérience, vous avez toujours des personnes, je ne sais pas, qui sont attirées par mettre un peu de zizanie. Et la question, c'est comment un groupe arrive à éviter finalement le désordre. Et encore une fois, la grande force de la société industrielle, c'est cette capacité d'encadrer les masses. Et donc, comment on fait une société de masse tout en étant respectueuse des individus, c'est un vrai défi organisationnel.
Aux Lentillères, il y a une organisation qui n'est pas forcément appréhendable au premier abord, mais il y a quand même le premier organe sur lequel on essaye d'être le plus clair possible, c'est l'Assemblée. L'Assemblée, elle a lieu tous les troisièmes jeudis du mois, depuis plus de 10 ans. C'est absolument tous les mois, et c'est un moment où on va traiter de tous les sujets auxquels on est confronté. Ces derniers temps, il y a beaucoup de demandes de passage de gens, de personnes qui aimeraient qu'on passe à tel ou tel endroit. Mais on va aussi traiter de questions qui sont un peu saisonnières. La question de l'ouverture du camping des Lentillères, la question de en automne, de la gestion des chemins qui commencent à devenir boueux, et est-ce que ou pas on a envie d'y ajouter du gravat, et comment on fait ce choix, est-ce que on va aller chercher des graviers à la carrière, ou alors est-ce qu'on va plutôt choisir des techniques qui nécessitent pas ce niveau d'extractivisme, même à une petite échelle. On va aussi se poser des questions un peu plus humaines. C'est aussi l'endroit où on va ramener des conflits sur la table et voir comment essayer de démêler tout ça, notamment les conflits d'usage, parce qu'en fait, il y a tout un tas d'usages très différents. Et souvent, on arrive à ce que ces usages ils s'entremêlent sans s'entrechoquer. Mais des fois, ça s'entrechoque et des fois, c'est l'embrouille. Et du coup, ça fait partie des sujets qu'on va traiter, de se dire, est-ce que tel endroit, on a l'impression qu'il doit plutôt rester un jardin, ou c'est OK qu'il y ait cette cabane que cette personne a commencé à construire qui reste sur cet endroit-là. Donc on essaye de traiter de ces points-là. Et on est entre 20 et 30 personnes à chaque assemblée pendant 2 à 4 heures à échanger sur tous ces sujets. Et on va plutôt prendre ces décisions au consensus. On regarde si personne ne s'oppose à la décision, c'est qu'on peut prendre cette décision. Et puis, on essaye d'avoir aussi tout un tas d'attentions et de formes qui nous viennent notamment beaucoup de la culture féministe et autogestionnaire pour faire que ces assemblées, ce ne soient pas des moments de qui parle le plus fort remporte la décision, mais plutôt des moments où la parole elle peut tourner, où les personnes qui habituellement ont du mal à avoir voix au chapitre vont avoir la place pour ça. Et clairement, en vivant ici depuis... En m'organisant ici depuis plus de 10 ans, c'est amusant. On voit les formes d'assemblées qui évoluent et il y a de plus en plus de ces soins à la discussion, à comment trouver des manières de se parler et d'être à l'écoute. L'autogestion, c'est plutôt la construction d'une intelligence collective, quoi, et la construction d'une responsabilisation de tous et de toutes. essayer de faire que quand tu rentres ici, eh ben, tu te rends compte que c'est un espace qui est précieux pour toi et pour plein de gens. Et du coup, à la mesure de ça, tu vas agir un peu en conséquence. Et donc, cette dimension d'autogestion, c'est construire une sensibilité au quotidien qui fasse que tu vois bien que tu peux pas faire n'importe quoi. Où au final, on crée des espèces de règles coutumières qui sont pas forcément posées sur le papier, mais qui deviennent des espèces d'évidences partagées, une culture partagée du soin à l'espace et aux initiatives, quoi.
Nike.
En arrivant à Dijon, j'ai très vite rejoint le collectif qu'on appelle Les Grandes Cultures, qui est un collectif qui s'emploie à produire des pommes de terre, des courges. Je me suis retrouvée au champ, donc voilà, la première journée, j'y connaissais rien. Bon, moi, je suis petite fille d'agriculteur, agricultrice, mais j'ai été élevée dans une petite ville à côté de la campagne, mais sans faire grand-chose de paysan. Je pense qu'il y a quand même quelque chose quand même qui, en moi d'avoir envie d'avoir beaucoup été sur la ferme de mes grands-parents. Mais bon, je suis dans le champ, je fais du désherbage et là je vois donc le groupe qui m'accueille en train de faire du tracteur. Et dans ma tête, je me dis, mais un jour je vais être sur ce tracteur. Et bon, je me dis à quel moment ils vont me dire que c'est possible de monter dessus. Peut-être il y a des étapes. Et puis là, il y a une personne qui est sur le tracteur, qui me dit « Nike, est-ce que tu veux essayer, quoi ?» C'était genre le premier jour, je suis là « oulalalala ». C'est impressionnant pour moi, le rapport au tracteur dans une éducation genrée, où vous voyez, c'est vraiment très dur, la question des machines. Et voilà, et je me suis retrouvée sur le tracteur, j'ai appris 2-3 trucs, voilà, on a fait ça ensemble, on était deux, et il y a eu une transmission comme ça, immédiate, d'une personne très attentionnée, qui prenait très soin de où j'en était, de voilà les peurs qui savaient en fait ce que c'était aussi quand on n'a pas eu d'éducation masculine, ce que c'est que la question du tracteur. Et voilà, j'ai écrit un texto à mon père pour lui dire tu vois, je suis montée sur un tracteur aujourd'hui, et il a mis 24 heures à me répondre et il m'a dit je suis désolée, j'aurais dû te faire monter moi sur un tracteur.
Le jardin, c'est un espace privilégié en fait pour retrouver cette confiance. Est-ce que c'est un lieu où justement on va retrouver du pouvoir d'agir dans une perspective féministe?
Ici, il n'y a pas l'image de la femme traditionnelle qui va faire son petit jardin, parce qu'elle existe dans l'histoire, dans notre société. Elle a cette place-là, la femme, elle peut jardiner. Ici, il y a une sorte de mélange de différentes capacités à faire ensemble. C'est ici, on est dans un jardin qui n'est pas juste un jardin, c'est un jardin habité. Et c'est en ça que c'est une des propositions pour moi les plus désirables de notre siècle, c'est que on propose ici d'inventer à la fois un endroit où on va produire des légumes, mais c'est une petite partie de ce qui est proposé aux lentillères. On va habiter ensemble, on va penser des formes de communauté, des formes de soins, des formes de rapport à la justice, des formes de rapport à la police, qui tentent d'avoir un rapport critique aux dominations du monde actuel. Et voilà, donc c'est pour ça que la proposition, elle est féministe. Ici, on crée des liens qui sont complètement hors famille et dans l'optique de construire sur la durée aussi. Je pense qu'il y a un rythme qui est aussi assez féministe pour moi, c'est la lenteur du processus et la possibilité de se tromper, de recommencer et d'avancer avec les personnes aussi qui sont parfois les moins dotées ou pour qui c'est moins facile de, je sais pas, prendre la parole dans une assemblée, avec une attention aussi aux personnes qui n'auraient pas donné leur avis, et de travailler ces questions ensemble. Oui, ça, c'est en effet une perspective féministe.
Morgane.
En 2019, suite à l'occupation de cet endroit, à toutes les activités qu'on a développées, à tous les événements qu'on a organisés, aux manifestations qu'on a organisées, et au mouvement de soutien, il y a eu donc l'abandon du projet d'écoquartier qui a été annoncé par la mairie et qui menaçait cet endroit. Et donc depuis ce moment-là, on va dire qu'il y a des va-et-vient réguliers avec la municipalité de Dijon pour savoir comment pérenniser cet endroit suite à l'abandon du projet d'écoquartier. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un dialogue, mais qui est assez complexe. Et moi, j'ai l'impression qu'une des difficultés difficulté, notamment, c'est que la mairie aimerait pouvoir cantonner les lentillères à un rôle de jardin pour la ville. Mais dans sa vision du jardin, c'est quelque chose qui est déconnecté des personnes qui le font vivre. Pour elle, le jardin, c'est la dimension humaine, c'est les gens qui vont y passer. Mais ce n'est pas les gens qui en prennent soin. Finalement, c'est une vision très au présent, quoi, de juste tu traverses. Enfin, c'est une vision d'un parc, quoi, d'un endroit d'agrément qui est joli pour l'œil, que tu peux traverser, qui va te changer un peu les idées, qui va te permettre d'avoir une bouffée d'air frais. Du coup, dans les dialogues qu'on a avec elle, c'est comme si elle se disait qu'elle pouvait remplacer toutes les personnes qui font vivre cet endroit, toutes les personnes qui s'y organisent de manière autogérée au quotidien, mais aussi dans le cadre de cette assemblée qui a une existence quand même, qui existe depuis plus de 10 ans, une assemblée mensuelle. Donc il y en a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et c'est comme si elle se disait qu'elle pouvait faire fi de cette part-là des lentillères et faire que ce soit un jardin. C'est aujourd'hui ça un peu son discours, quoi, de vouloir sanctuariser cet endroit, mais en voyant pas l'entremêlement qu'il y a avec le bâti, avec les personnes qui y sont au quotidien et les personnes qui en prennent soin. Donc c'est ça notamment qui fait que qu'on est toujours en lutte, quoi, pour faire qu'elle reconnaisse ces dimensions-là et qu'il y ait une dimension autogérée. Et c'est sûr, on se doute bien que pour une mairie qui n'a pas confiance, ça fait peur, l'idée de nous laisser autogérer ce lieu. Et en même temps, si elle prenait le temps de venir ici, eh ben, tu vois qu'il y a une espèce de forme de bon sens, de génie du lieu, de magie qui fait qu'il y a quelque chose qui s'y développe, qui est précieux, et il n'y a pas une zone de non-droit peuplée de gens drogués qui font n'importe quoi. Et enfin voilà, je dis ça parce que c'est les imaginaires qu'elle appose un peu à cette idée de zone de non-droit, alors que nous, on a plus envie de mettre en avant le soin par l'autogestion, par le quotidien, par l'ancrage. Voilà la question des communs et le soin des communs, et qui se fait dans la durée et qui se fait pas dans une vision du jardin comme le parc d'agrément, quoi.
Comment repenser la question territoriale ? Aujourd'hui, nos social-démocraties sont moribondes. Il y a un enjeu vital qui est celui de la réappropriation des terres pour subvenir à nos besoins, pour la subsistance. On imagine mal que ça se débloque à une échelle étatique. Ça va se jouer à l'échelle des territoires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut se débrouiller pour revivifier les approches biorégionalistes.
Alors, quand on aborde les territoires, c'est effectivement une notion assez vague. Mais ce qu'elle exprime déjà, c'est que par rapport à un monde qui gère tout sous l'angle de flux monétaire et de mesures monétaires, on sait que ce qu'on va devoir gérer est quelque chose d'extrêmement concret. C'est de la terre, c'est de l'eau, c'est-à-dire le réel nous rattrape.
Mathieu Calam.
Donc le territoire est d'abord cette notion-là qui affirme que face à une gouvernance qui est obsédée par des chiffres monétaires qui sont une abstraction, on va être rattrapé par le réel. C'est pour ça qu'il y a cette notion de biorégion, mais ce n'est pas évident d'arriver à définir quelle est la taille exacte de cette biorégion. C'est-à-dire, quels sont les critères objectifs du réel qui vont amener à en fixer les limites. Alors, c'est très naturellement quand même, et c'est symptomatique, c'est souvent le bassin versant qui revient. Pourquoi ? Parce que une émission sur le feu ne peut pas se passer d'évoquer l'eau, puisque quelque part c'est l'antithèse du feu dans la vision galiénique du monde. Effectivement, derrière le feu, il y a cette question de l'eau, et les deux sont étroitement liés, puisque c'est avec de l'eau, paradoxalement, que les végétaux permettent de fixer le feu du ciel. Ça a évidemment énormément d'impact, puisque la nature de la biomasse que vous avez, la présence de forêts, la présence d'humus dans les sols, et là on retombe sur l'agroécologie, ça a un effet capital sur la capacité du territoire à devenir éponge. On parle beaucoup des villes éponges, mais sans vouloir minimiser les efforts des gens qui font des villes éponges pour essayer de leur faire supporter le feu du ciel dans le changement climatique, en réalité une ville n'est qu'une petite surface. Si le territoire n'est pas éponge, vous n'aurez pas de ville éponge. Donc il va falloir refaire des territoires éponges, et ça va être crucial sur le fait qu'il faut maintenir de l'humus dans les sols, qu'on ne peut pas avoir des grandes plaines, qu'il faut avoir aussi notamment les hauteurs qui soient forestées, enfin, surtout les coteaux, pour éviter que l'eau ne descende trop vite. Enfin, ça a des impacts majeurs. Donc il y a une sorte d'Éden, c'est qu'il va falloir jardiner le territoire. de manière très intelligente et il faudra probablement jardiner les bassins versants.
Dans la Drôme, au-dessus de Die, au milieu des montagnes, une petite rivière enfoncée dans le sol entre deux zones agricoles, le long de laquelle poussent des trembles et des peupliers. Le contraste entre le sol sec et dur des champs et la ripisylve, cette végétation qui accompagne les cours d'eau, est saisissant. Un exemple banal de la manière dont nos pratiques agricoles bouleversent l'hydrosystème dont elles chassent l'eau verte, cette eau contenue dans les sols et les plantes, si importante pour les petits cycles de l'eau et l'hydratation des milieux. Mais ici, un processus de régénération est à l'œuvre. Il prend la forme de plusieurs tas de branches qui émaillent la rivière, des barrages de castors. Judith Hickman, hydrologue.
Alors attention, t'es sur le chemin d'entrée, t'es sur la porte d'entrée. L'extérieur, on voit pas grand-chose, on voit un tas de branches avec un peu de paille, un peu de feuilles. Et pas très organisé là, comme ça, on a l'impression que c'est complètement brouillon, on a même l'impression que c'est un peu jeté. Et en fait, il y a un ordre sous-jacent, il y a un ordre caché. Là, il n'y a aucun bout de bois qui est perpendiculaire au courant. Ils sont tous à un certain angle, ce qui fait que ça va dévier progressivement le courant. Et on voit que l'eau, elle n'est pas arrêtée en fait, elle est ralentie. Puis là, de ce côté-là, là, vous voyez, il y a même une petite passe. Parce que le castor, il pense à ses copains, libellules, tritons, etc. Et puis, si on l'entend, si on écoute, là, on entend l'eau qui traverse. On entend que ça ne bloque pas le cours d'eau. Et en fait, l'ouvrage, il part de l'espèce de gros peuplier qui est là-bas, jusqu'au liseron qu'on voit en fleurs blanches, là, vous voyez au bout, tout ça. C'est un ouvrage construit, quoi. Et derrière ça, ben voilà, on a cette accumulation qui nous crée une zone, on se croit en Amazonie, quoi. On a du bois mort dans l'eau, on a une végétation là, aquatique qui reprend, etc. Et c'est vraiment, on a des ajoncs dans le fond, on a toute une diversité qui reprend. Ça nous choque plus, en fait, de voir les rivières qui sont 10 mètres en dessous du champ. Mais ça, naturellement, la rivière... En fait, c'est une conception paysagère qu'on a oublié. On parle d'amnésie environnementale, mais c'est exactement ça. On a oublié que les rivières, leur état de fonctionnement initial, c'est pas d'être 10 mètres en dessous du champ. C'est d'être au niveau du champ et de venir humidifier toute cette berge. Donc il faut vraiment se réimaginer en fait, cet espace qui est là. On a l'alternance d'un milieu ultra-aquatique et à 3 mètres, un milieu ultra-sec. En fait, normalement, enfin, dans son état de fonctionnement initial, ces milieux, ils sont connectés et on a un gradient de porosité entre l'humidité du milieu aquatique et les flancs, en fait, les versants. Ce qu'a fait l'agriculture depuis des siècles, c'est d'essayer de sortir l'eau des champs. Donc, au cours des siècles, on a drainé les champs, on a fait sortir l'eau parce qu'on ne voulait pas que les engins, mécaniques ou pas mécaniques, s'enlisent, etc. Parce que c'était une zone stable, en fait. On a voulu créer de la stabilité, créer l'immobilité. On a voulu aussi, dès le début du siècle, cartographier, inventorier, poser, définir les limites, quoi. Donc on a voulu figer tout ce système, dire, définir les parcelles, etc. Sauf que la rivière, comme je viens de dire, elle ne peut pas être figée. Elle est par définition mobile. Un des phénomènes qu'on a actuellement, c'est que dû à l'avancée des terres agricoles sur le terrain de la rivière, sur le lit de la rivière, sur son espace vital, la rivière va se replier, va rétrécir son champ d'action. Lorsqu'elle rétrécit son champ d'action, ça c'est une des lois de la mécanique des fluides de base, c'est qu'un flux rétrécit, nécessairement il va accélérer. En s'accélérant, il va transporter les sédiments, il va emmener de plus en plus de sédiments, et surtout des sédiments de plus en plus gros. C'est un peu le transport sédimentaire, la matière en suspension dans le cours d'eau, qui donne sa couleur, qui donne sa composition chimique, qui conditionne aussi le biotope, les espèces d'organismes, enfin, les espèces qui vont être capables de survivre dans tel ou tel milieu. Et donc tout ce transport sédimentaire, il est fondamental pour l'écosystème rivière. Donc, en accélérant, quand la rivière s'accélère, elle va transporter de plus en plus de matériaux et donc déformer son lit vers le bas. Elle n'aura plus son espace de mobilité latérale et donc elle va s'inciser vers le bas. En s'incisant vers le bas, mécaniquement, son lit va descendre. Du coup, le niveau d'eau va descendre aussi. L'ensemble de l'hydrosystème est connecté à la rivière. La rivière, c'est un peu le front qui est à l'avant, qui est visible, etc. Mais l'ensemble de l'hydrosystème, si la rivière descend, l'ensemble de l'hydrosystème descend. Et du coup, quand la rivière s'incise, le sol s'assèche. Donc si on a le sol qui s'assèche, le niveau d'eau dans les versants qui va descendre, on va avoir un besoin en alimentation en eau qui va être plus important. Donc on va avoir, par ce phénomène de rétrécissement, d'accélération et d'incision des cours d'eau, on va avoir une augmentation du besoin en irrigation des champs avoisinants. A l'inverse, si on laisse son espace de mobilité à la rivière, son ligne va être moins tentée d'être incisée et donc être réouvert. Et donc le niveau d'eau dans les nappes, lui, va moins descendre. Et on aura toujours cet équilibre entre le niveau d'eau dans le cours d'eau et le niveau d'eau dans les flancs, alors quel que soit l'usage, hein, c'est la même question si c'est agricole, forestier ou quoi que ce soit, on aura un niveau d'eau dans les flancs avoisinants qui vont être plus hauts. Ici, en fait, on dit que le castor, c'est une espèce pionnière parce qu'il est ambassadeur de la mobilité du cours d'eau. C'est-à-dire que le castor, pour survivre, il est aquatique. Il a besoin d'environnement aquatique puisque c'est une proie trop facile, sinon il se fait chasser par le moindre renard qui passe. Alors que dès qu'il y a de l'eau, il peut plonger et aller se réfugier sous la berge. Et ça, c'est le seul à pouvoir faire. Donc, alors toujours hein, dans un système, on a toujours un rapport d'interdépendance. Est-ce que c'est la rivière qui dépend du castor ou le castor qui dépend de la rivière? C'est quelque chose, c'est la question. Mais en tout cas, il y a un lien d'interdépendance entre les deux. Et donc, le castor va élargir le lit du cours d'eau et recoloniser, rendre à la rivière son espace de mobilité. Il est proactif, on dit qu'il est ingénieur, il est ingénieur de la mobilité de la rivière. Et en élargissant, on diminue l'incision verticale, l'enfoncement du cours d'eau, et donc on réapprovisionne, on remonte le niveau d'eau dans les flancs avoisinants. Et ce que nous montre le castor, c'est la porosité. Le castor, il ouvre les berges, il connecte le cours d'eau, le milieu cours d'eau, et le milieu non cours d'eau, le milieu versant. Et en rendant les mondes poreux, en connectant les mondes, il permet que les mondes se soutiennent, que les mondes soient interdépendants. Je dirais que c'est un îlot de résistance.
Ici, c'est vrai que tu parlais de cet aspect un peu îlot. Oui. On a vraiment le sentiment d'un jardin enclos et se pose la question de qu'est-ce qui fait la clôture, quoi. Vous disiez à quel point cette clôture, cet enclos, en fait ici il est poreux et tout le côté au fond paradisiaque, peut-être qu'il est dans cet échange justement entre dehors et dedans, quoi. Et qu'il y a quelque chose qui se construit vraiment là aussi dans ce mouvement.
C'est quoi les lentillères? Où c'est que ça s'arrête? C'est dur de dire et d'autant plus que je pense que cet endroit, il est quand même ancré dans une ville. Il serait pas ce qu'il serait s'il n'était pas à Dijon. Et même si à un endroit, d'une certaine manière, il se construit un peu, ne serait-ce que dans sa physionomie, en opposition à la ville de Dijon, bah, en se construisant en opposition, ça veut aussi dire que tu te construis quand même en lien, quoi. Donc en fait, il est aussi ancré dans la ville et au-delà de ça aussi... Ben, il y a une dimension humaine où on est en lien avec plein d'associations, on est en lien avec vont plutôt habiter la ville et choisir d'y développer des choses belles dans la ville. Et ça nous empêche pas d'être en lien et de venir nourrir ces liens. En tout cas, c'est une question souvent qui est en tension permanente et qui, je pense, c'est plutôt bon signe que ce soit en tension permanente, cette question de où ça s'arrête les lentillères. Ouais, est-ce qu'il y a vraiment un intérieur et un extérieur? En tout cas, moi je le placerais aussi du fait que souvent pour définir les lentillères brièvement, on parle d'une ZAD urbaine. Et ben, j'ai l'impression que dans ce terme de ZAD urbaine, il y a un peu de cette contradiction et cette tension qui est signe de vie, quoi, d'être à la fois un espace de liberté, mais en même temps ancré dans la ville, qui est quand même aujourd'hui un des endroits les plus tenus par plein de formes de vie très normées ou par plein de ou en tout cas par une densité qui peut être oppressante à plein de moments, dure à vivre. Et du coup, le fait d'être une ZAD urbaine, ça veut aussi dire que tu as de cette ville qui vient dans cet endroit de liberté et qu'apporte aussi tout ce que la ville elle peut avoir de dur comme de riche et comme de beau. Et donc ça vient diversifier encore plus cet espace de liberté, moi, je trouve.
Le projet écologique, il est quand même plutôt plaisant. Boire de l'eau pure, respirer de l'air pur, avoir assez à manger. Il y a là quelque chose, on pourrait penser, de fédérateur. Et pourtant, ce à quoi on est en train d'assister, c'est un retour en force de la pensée industrielle. Il y a
ce retour en force et l'évacuation complète, l'effondrement total de la pensée écologique. Et il y a un retour de flamme qui est là, la flamme du RN, qui est en train d'enflammer les campagnes. Comment vous voyez les choses ?
L'écologie n'a jamais suscité autant de haine parce qu'il n'a jamais été aussi évident que c'était la seule solution. Et donc vous êtes dans le moment critique dans le changement, dans lequel quelque chose est en train de devenir inévitable, qui va bouleverser les vies de tout le monde, et en même temps les gens ne sont pas prêts à l'accepter. Et donc leur réponse est la violence. Si je veux faire un parallèle historique, c'est les grandes persécutions de Dioclétien contre les chrétiens. C'est-à-dire que c'est le moment où le christianisme a atteint une taille critique dans l'Empire, où il est encore minoritaire, mais où en fait le vieux monde païen est mort. Et Dioclétien va essayer de revitaliser le monde païen par une persécution, mais il ne va pas arrêter l'histoire. Ça n'empêche pas qu'il y ait une persécution extrêmement violente. Toute fin de civilisation ou toute métamorphose de civilisation passe probablement par ce genre de réaction. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'elle est pour tout le monde, même pour ceux qui réagissent et qui veulent beaucoup de mal aux écologistes, parce qu'il faut bien reconnaître qu'une chose, c'est que les écologistes ne sont pas responsables de la crise écologique. L'écologie est un fait lié aux limites planétaires. Donc, et c'est là que c'est la violence contre les écologistes est absurde, parce que, et je vais reprendre l'image du feu, c'est pas en brûlant un écologiste que vous résolvez la question des limites planétaires, même si les adversaires des écologistes en sont persuadés, mais ça, c'est de la pensée magique. Je veux dire, vous brûleriez tous les écologistes du monde, vous n'auriez pas résolu le problème du climat. Donc c'est l'absurdité même de cette réaction anti-écologique montre qu'on est à la fin de la société et le crépuscule de Prométhée reste un petit peu sombre. Et comme Prométhée a un peu l'image de l'homme émancipé, on espère qu'il y aura quelque chose comme un Prométhée écologique, parce que s'il n'existe pas, alors ce sera le crépuscule, pas seulement de Prométhée, mais de l'humanité.
Là, on est vraiment en plein dans le limon, quoi. On est vraiment en train de creuser du limon, et ça, c'est du limon qui a été, qui vient du ruissellement, là, mais qui a été déposé ancestralement par un ruissellement, quoi, par un cours d'eau. Et ça, ce limon pour l'agriculture, c'est incroyable. C'est là-dessus, en fait, sur le dépôt alluvial du limon qu'on a créé l'agriculture. Vous entendez ça ? Vous avez écouté ça ? Ça, c'est l'origine du monde. Là, on vient de marcher sur une des origines du monde. C'est tout dégueu, il y a de l'eau saumâtre un peu qui croupit. C'est génial, hein ? C'est comme ça, l'origine du développement bactérien. C'est... Alors, regarde, en plus, tu viens de marcher sur le tas de bois, là, le tas de paille. Et on voit tout le limon qui est sorti, qui est venu... se remettre en suspension dans un milieu, le limon il avait déclenché. Oh, regardez là, si vous le voyez. On voit des petites pellicules d'un truc un peu irisé là ici. C'est en fait du développement bactérien. Les premières bactéries anaérobiques, les bactéries qui se développaient avant qu'il y ait de l'oxygène sur Terre, elles sont développées de cette manière-là, en utilisant l'oxygène qui était contenu dans l'eau et dans les minéraux en suspension dans l'eau. Donc là, on a devant nous les bactéries qui ont créé la vie sur Terre.
Avec Nicolas Mirouz, Mathieu Calam, Morgane, Andrea et Naïke, Judith Hickman, prise de son Johanna Gabric et Benjamin Reyes, musique originale Jefferson Lambeil, mixage Manuel Couturier, documentation Amélie Signoret. Chargée de programme, Marivana Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. C'était Transition énergétique, éteindre un feu hors de contrôle. Épisode 4, Un jardin dans les cendres. Un documentaire de Tao Favre, réalisé par Gaël Gillon. Retrouvez-nous sur franceculture.fr et pour le podcast, c'est sur l'appli Radio France.